L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.
L'âge d'or des sciences arabes. Un voyage au pays des mille et une sciences pour découvrir les avancées scientifiques de l'une des périodes les plus fructueuses de l'humanité. Entre grands savants et découvertes étonnantes de modernité, plongez dans le monde fascinant de l'âge d'or des sciences arabes. Comptez par le professeur Ahmed Jabba.
Si les voyages forment la jeunesse, ils forment aussi les civilisations. L'Empire monde constitué par les conquêtes arabes a permis d'unifier sous une même bannière des centaines de peuples, de peuplades, d'ethnies, aux cultures et aux mœurs différentes sur un territoire qui va de Saragosse à Samarcande. Des populations qui ont pu apprendre à se connaître à défaut de se côtoyer vraiment grâce à des reporters qui, par leurs fonctions respectives, ont sillonné l'Empire. Oui, des reporters, qu'ils soient voyageurs curieux, pèlerins fervents, commerçants scrupuleux, rapportant de leur pérégrination des récits parfois bien embellis. Qu'ils soient marins au long cours, géographes rigoureux, militaires attentifs ou diplomates élégants, tous ont été à leur façon des journalistes. Et tous, à leur façon aussi, ont rapporté des informations en tout genre, venues d'ailleurs et qui avaient leur auditoire. Professeur Jabbar, bonsoir. Alors ce soir aussi, on repart en voyage.
Bonsoir.
Les voyageurs, il y en a eu à toutes les époques, dans toutes les civilisations, et je suppose qu'ils avaient différents profils et que ces profils correspondaient à des métiers différents et à des destinations différentes.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dès la fin du 8e siècle aussi, hein, parce que tous les phénomènes vont démarrer à peu près en même temps, il va y avoir des profils de voyageurs en fonction, en fait, des besoins, en fonction des nécessités, des envies aussi. Évidemment, les premiers voyageurs, ça va de soi. Période des conquêtes, 632-751, ce sont les militaires. Ces militaires, ils voyageaient beaucoup, ils parlaient peu, ils écrivaient peu. Ou s'ils écrivaient, c'était uniquement pour leur supérieur hiérarchique ou bien pour le pouvoir politique, qui était d'abord à Médine, puis donc de 632 à 661, puis qui s'est déplacé de 661 à 754 à Damas, avec le califat Omayyad, et puis à partir de 754, c'était à Bagdad. Ça, c'est pour le califat central. Et puis il y a eu, comme vous le savez, le morcellement de l'Empire. Et à ce moment-là, il va y avoir des armées au Maghreb, des armées en Espagne musulmane, des armées en Asie centrale. Il va y avoir des rapports militaires, des rapports de leurs services de renseignement aussi, qui étaient envoyés secrètement avec des messages codés. Et donc, malheureusement, nous ne pouvons pas parler ce soir de ces types d'écrits parce que nous ne sommes pas parvenus.
C'est logique, le militaire, c'est le militaire.
Voilà. Il y a aussi, évidemment, la deuxième catégorie qui est apparue juste après les militaires, ce sont les géographes. Il faut dire, on en a parlé en tant que géographe technicien qui faisait des cartes, qui rassemblait les informations dans des livres. Mais comment il les rassemblait? Il y avait deux méthodes. Soit il faisait des compilations, c'est-à-dire qu'il lisait les livres des autres, tout type de livres, et puis il faisait des synthèses, des résumés. Et comme le plagiat était accepté, il n'y avait pas de copyright. Hein. Donc il utilisait son style littéraire, son génie aussi. Et puis, à un moment donné, quand même, des géographes ont ressenti le besoin de voyager. Parce que les informations, il fallait les renouveler. Soit parce que le pouvoir politique n'était pas satisfait des informations que donnaient les géographes. Après tout, ils étaient payés par l'État au départ, hein, pour faire des cartes, etc. Soit les cartes n'étaient pas très précises, soit les informations n'étaient pas très crédibles. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont modifier leur métier. Ils vont avoir soit des assistants qui vont voyager à leur place, soit des géographes eux-mêmes qui vont se déplacer. Et là, nous avons des exemples. Dès le Xe siècle, hein, il y a Ibn Hawqal, qui est un grand géographe, mais aussi un grand voyageur, puisqu'il est allé en Inde et il est allé jusqu'à l'océan Atlantique. Et après, il a fait des fiches. Et après, il a écrit son livre. Mais son livre, ce n'est pas un livre de souvenirs. Donc, ce n'est pas un grand reporter. C'est un géographe. Il a pris des informations sèches, froides, économiques.
In situ.
Absolument. Par exemple, il ne donne pas son impression. Il n'exprime pas ses sentiments.
Donc il n'interprète rien.
Voilà. Mais il a fallu quand même qu'il voyage pour renouveler ses informations. Il y a aussi Al-Bakri, qui est de l'Andalus. Il est très connu. C'est grâce à lui que nous avons des informations sur le 8e siècle, le 9e siècle, le 10e siècle du Maghreb. D'ailleurs, Ibn Khaldoun l'utilise beaucoup. Il y a Al-Idrisi, on en a déjà parlé.
Oui, le grand géographe.
Mais on a insisté sur le fait qu'Al-Idrisi, lui, n'a pas beaucoup voyagé. Par contre, il a inauguré vraiment ce qu'on appelle le concept d'équipe scientifique. Il a rassemblé une équipe scientifique et qu'il a envoyée dans tous les coins du monde, avec un programme et une mission financée par le roi Roger II de Sicile, qui était un chrétien. Et là, ils sont allés avec, évidemment, une mission bien précise. Ils devaient rapporter des informations sur tel et tel et tel et tel sujet.
Ils avaient leur feuille de route, comme on dirait aujourd'hui.
Ils avaient une feuille de route, absolument. Et on raconte qu'il a pu écrire son livre après 15 ans de récolte d'informations. C'est un monsieur très sérieux. Et c'est la raison pour laquelle son livre est un des livres de géographie le plus important. Il est aussi le résultat de voyages.
C'est une référence, donc.
Ah, c'est une grande référence. Donc ça, ce sont les géographes. Et puis, vous l'aviez signalé, il y a les pèlerins. Alors ces pèlerins, malheureusement, pour nous, pour cette émission, ils ne nous intéressent pas tellement, malgré tout le respect qu'on leur doit, parce qu'ils voyagent, ils vont à la Mecque. Ensuite, il y a eu tout un circuit pratiquement touristique, mais en fait religieux, pour aller voir tous les lieux saints, les grands marabouts, les mausolées. Mais en fait, souvent, ils n'écrivaient pas. De temps en temps, il y en a un qui écrit, comme Al-Mawsili, qui est mort en 1215, qui a écrit un livre qui s'appelle Ziyarat. Peut-être que la recherche montrera qu'il y a d'autres gens qui ont écrit. Il faut dire qu'il y a d'autres auteurs qui ont écrit sur les lieux de pèlerinage, sur les routes qui mènent vers les mausolées. Mais en fait, ils l'ont fait dans un projet plus large. Ils ne se sont pas spécialisés dans les visites de mausolées et dans les visites des lieux saints.
C'est-à-dire un projet plus large ?
Vous allez voir la suite.
Alors on continue, on est sur la route là, continue.
Et il y a ensuite les hommes de science.
Voilà.
Ils ont voyagé pour des buts précis, scientifiques. Sauf deux. Deux ne devaient pas voyager. Et pourtant, ils ont fait des voyages presque contraints. Et ils sont très intéressants. Mais ce sont des scientifiques. Il y a évidemment les récits de marins. Vous savez que l'Empire musulman est entouré par l'océan Indien, la mer Rouge, la Méditerranée, l'océan Atlantique, la mer Caspienne, la mer Noire. Donc aujourd'hui, je n'aborderai pas ce problème parce qu'il est très long. Mais il faut déjà dire aux auditeurs qu'il y a de grands marins. Pas seulement des pêcheurs ou des petits marins. De grands marins, des capitaines au long cours, qui non seulement arrivaient à piloter des bateaux sans faire du cabotage, comme on dit, en allant
loin des côtes,
en allant jusqu'en Chine. Mais en plus, certains étaient tellement cultivés qu'ils ont laissé des livres, soit de souvenirs, soit des livres d'informations, soit des livres érudits pour apprendre aux jeunes futurs capitaines comment naviguer. On en parlera une autre fois.
Sinbad le Marin, il est sorti vraiment de l'imagination fertile et magnifique de Scheherazade ou il a réellement existé ?
C'est sûrement une légende construite à partir de faits réels. Et donc il y a des marins de ce type qui ont existé. Il est vrai que les marins n'ont pas eu les mêmes exploits que Sinbad le Marin. Mais là, on a dû rassembler des tas d'aventures qui se sont passées. On a enjolivé, comme fait le bon romancier. Mais à la base, il y a des faits très précis que j'aborderai dans la prochaine émission.
Comme fait le bon romancier, mais aussi la bonne romancière qui a été Scheherazade dans les Mille et une Nuits. On est d'accord.
C'est une grande romancière. Et d'ailleurs, moi, j'ai appris à compter en lisant, en écoutant ce que disait Scheherazade. Il reste deux catégories de gens. Il y a les ambassadeurs. Les ambassadeurs, ce n'était pas comme maintenant. Ils ont leur lettre de créance, et puis ils prennent l'avion, et puis ils s'installent. Les pauvres, ils sont tellement occupés qu'ils ne peuvent même pas décrire la ville, la ville où ils sont nommés. Je ne parle pas du pays. Mm-hmm. Bon. Non, les ambassadeurs, à cette époque, eh bien, ils se déplaçaient beaucoup. Et c'était aussi des informateurs, en fait. Des informateurs de leur propre gouvernement, de leur propre pouvoir. Et puis, il y a des ambassadeurs qui leur est arrivé des mésaventures. Et enfin, il y a les vrais globetrotters, c'est-à-dire les vrais grands reporters.
Au sens journaliste du terme.
Au sens journaliste, c'est-à-dire que c'est lui qui décide. Il n'a pas été envoyé par le calife, il n'a pas été envoyé par le grand géographe, il n'a pas été envoyé comme ambassadeur, il n'a pas été attiré par la visite des mausolées et des lieux saints. Il a décidé, après avoir une formation solide, il n'y avait pas d'école de journalisme à l'époque.
On s'en doute, mais...
Mais ce sont les maîtres, normalement. Ce sont vos maîtres, les maîtres des journalistes, parce que c'est un hommage que je rends à la profession des journalistes.
Merci. Les grandes voies de circulation dans l'Empire musulman qui ont été empruntées par tous ces voyageurs et ces reporters, entre guillemets.
Il y a eu deux grandes voies. Donc il y avait les routes terrestres et les routes maritimes. Les routes terrestres, ce sont les grandes voies caravanières. Et ces grandes voies caravanières, grosso modo, c'était les grandes routes commerciales qui existaient bien avant. Elles vont être consolidées, balisées, protégées, etc. Et puis, il y a de nouvelles routes, parce que l'Empire étant maintenant mondial, il va évidemment créer des routes pour pouvoir accéder à tous les lieux de l'Empire et surtout aux richesses de l'Empire. Et puis, il y a les routes maritimes que j'évoquerai dans l'émission sur la navigation. Ces routes maritimes, ce sont les routes, évidemment, essentiellement l'océan Indien, la mer Rouge et la Méditerranée.
Ils n'ont jamais passé le détroit de Gibraltar pour essayer de s'aventurer dans l'Atlantique ?
Si, j'en parlerai.
Alors, comment est-ce qu'on voyageait dans l'Empire musulman entre le 9e et le 17e siècle ? À dos de cheval, de chameau, à pied ?
Essentiellement sur les routes terrestres à dos de chameau.
Le chameau, les chevaux aussi quand même.
Il faut voir que ce sont de longs périples.
C'est vrai, le chameau
pour les
supporte
petits périples,
mieux la longueur, oui c'est vrai.
Pour les petits périples et pour les gens qui avaient les moyens, on utilisait le cheval. Mais le cheval n'est pas résistant pour les grandes distances. Par exemple, les hommes de science, quand ils se déplaçaient, utilisaient la mule. La mule est beaucoup plus résistante que l'âne, et on dit la mule du savant. D'abord parce qu'elle a un rythme tout à fait sympathique, hein. Elle ne bouscule pas. Puis ensuite, le savant, il est là avec ses bouquins des deux côtés, hein. Donc là, il travaille tranquillement. D'ailleurs, on raconte qu'il y a des savants qui n'étaient pas du tout gênés de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller d'une ville à l'autre. Et ils pouvaient travailler. Alors, ils passaient dans des routes qui sont balisées, comme j'ai dit. Il y a des caravansérails, des petits caravansérails, des grands caravansérails, ou bien des fondons. Et donc là, ils s'arrêtaient, ils dormaient. Souvent, d'ailleurs, c'était gratuit, parce que ces caravansérails, ces lieux de résidence, étaient payés par des gens riches comme action de grâce pour qu'ils aillent au paradis plus tard. C'est des sadaqat. Et les voyageurs étaient nourris, logés. Il y avait les hammams. Ils payaient les hammams quand même, il ne faut pas exagérer.
Oui.
On raconte qu'un jour, il y a un savant qui allait d'un point à l'autre au Maghreb. Puis il a été arrêté par les brigands, parce qu'il y a quelques routes qui ne sont pas balisées quand même. Les brigands ont existé, mais les géographes vous disent telle route de tel point, pendant des centaines de kilomètres, vous pouvez y aller, elles sont sûres. Et effectivement, elles sont sûres. De temps en temps, quand même, il y a des petits chemins de traverse. Là, c'est pas garanti. Alors, les brigands l'ont arrêté. Ils lui ont dit, bon, alors, ta bourse, hein, la bourse ou la vie. Alors, à cette époque-là, quand on voyageait, on mettait des pièces d'argent, surtout des pièces d'or, dans une ceinture creuse, parfois double ceinture creuse, triple ceinture creuse, et on s'attachait la taille avec, on la cachait bien. Et comme ça, on était sûr, on dormait avec, on était sûr que son matelas, quand même, hein, de dollars, si j'ose dire,
oui,
était là. Ils l'ont fouillé, ils lui ont pris tout son argent, bien sûr. Ils ont vu qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. C'était un pauvre scientifique. Alors, ils ont dit, tiens, mais toi, qu'est-ce que tu as là? Il dit, ce sont des livres. Bon, alors, on va prendre les livres et on va les vendre. Ah, il dit, s'il vous plaît, prenez mes habits, prenez tout, prenez mon turban, mais laissez-moi mes livres. Mais tu es un savant, tu as toute la science dans ta tête. Ah, il dit, non, non, ça, on vous a trompé. Vous savez, la plus grande partie de ma science, elle est encore dans mes livres. Hein. Si vous me les enlevez, je suis tout nu.
Ils lui ont laissé ses livres, alors, pour moralité.
Oui, si j'écris l'histoire, je dirais que les brigands sont des brigands au grand cœur. Ils comprennent quand même le désespoir du savant. Voilà, les conditions de transport étaient comme ça. Et donc, on voyageait avec des chameaux. Mais alors, attention, les gens croient qu'on voyageait seul. Si on lit les livres sérieux, on voit en fait qu'un voyageur prudent, pour des grandes distances, attend qu'il y ait une caravane. Et ils ont le calendrier des caravanes, surtout un homme de science. Il attend dans un caravansérail tranquillement, il est nourri, logé, il fait ses prières, etc. Il lit Bouquin. Et on lui dit, tel mois passe la caravane d'un tel ou la caravane de telle direction. Et vous savez combien il y a de chameaux dans la caravane?
40, 50
2000.
2000 chameaux?
3000. Il y a eu des caravanes qui ont dépassé 6000 chameaux. C'est un pays qui avance. Évidemment, puisqu'il y a de 2000 à 5000 chameaux, jusqu'à 6000 chameaux. Ça veut dire que pour diriger tout ça, il faut des bons hommes. Une caravane est accompagnée, si on compte les chameliers, les commerçants, les gens qui sont payés pour protéger la caravane, jusqu'à 15 000 hommes qui se déplacent. Une véritable armée. Mais alors là, il s'agit des caravanes qui font des milliers de kilomètres.
Oui, c'est clair. Alors, c'est quel type d'informations qui intéressaient les grands voyageurs et comment ils travaillaient pour rassembler leurs observations et qui allaient devenir récits, écrits, etc.
Alors, ça dépend donc du profil de ce voyageur. Comment il faisait? Nous n'avons pas beaucoup d'informations, donc on a des hypothèses. Il est clair que lorsqu'un voyageur revient chez lui, surtout lorsqu'il voyage pendant plusieurs années, quand c'est juste pour quelques mois, on se dit, il a une mémoire, il est jeune, donc il va reproduire un peu ce qu'il a retenu. Quand c'est quelqu'un qu'on évoquera tout à l'heure, Ibn Battuta, qui va rester 25 ans loin de sa ville et qu'il revient, eh bien la seule possibilité pour qu'il puisse quand même raconter des choses fidèles, c'est qu'il avait des fiches. Alors pour les géographes, nous savons qu'ils avaient des fiches, des systèmes de fiches, et ils notaient les informations. Les dates, parfois on a des dates très précises.
Tel jour, tel mois, à tel endroit, etc.
Absolument. Et d'ailleurs, les historiens modernes, quand ils veulent confondre un voyageur ou un géographe, mais il recoupe les informations de ce voyageur ou de ce géographe avec d'autres informations qui sont dans les annales, chez les militaires, chez les politiciens, etc., ou bien dans les pays étrangers. Quand il parle d'un événement qui concerne deux pays ou trois pays, il est rare qu'on attrape un grand voyageur en train de mentir. On l'attrape en train de confondre une année sur une autre, mais en général, ils sont sérieux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont produits d'une culture qui avait des normes. Prenons des exemples. Le voyageur ambassadeur, eh bien, il espionne. Il apporte des informations sur le pays où il est pour son propre pays. Bon, le mot espionner, c'est péjoratif, mais en fait, c'est ce que font les ambassadeurs essentiellement. Mais quand même, il y a des diplomates qui sont très cultivés, curieux, etc., et qui racontent des choses qui n'ont rien à voir avec les problèmes secrets de la diplomatie. Mmh. Ensuite, il y a les voyageurs scientifiques. Eh bien, ceux-là, les pauvres, ils vont juste pour assister à des cours, pour acheter des livres. Par exemple, à Bagdad, nous savons qu'il y avait beaucoup de librairies et des livres de très grands auteurs reconnus internationalement à l'époque. Donc on va écouter leurs cours, c'est un privilège. On va acheter des livres parce que les livres ne circulent pas comme ça. Parfois, il y a même un calife, Abdelrahman Ier, Abdelrahman II, Abdelrahman III aussi, en Espagne musulmane, qui donne une somme d'argent à un de ses représentants et il l'envoie comme missionnaire en Orient pour acheter des livres. Il va même avec un listing parce qu'ils sont informés que tel et tel grand savant a écrit des livres dans tel et tel domaine, mais les livres ne sont pas arrivés. Alors il y a une mission qui y va et qui achète des livres et qui les rapporte à Cordoue. Mais là, le calife, dans sa grande générosité, il le met dans sa bibliothèque califale et les hommes de science, ils viennent recopier gratuitement des livres très très rares. Et puis il y a les globe-trotteurs. Alors ceux-là, tout les intéresse. Ils ne voyagent pas avec un programme prédéterminé. Ils rassemblent les informations et après ils racontent. Et ils racontent pour plaire.
C'est vraiment le journaliste romancé, comme on pourrait dire.
Eh bien, vous avez dit l'essentiel, c'est-à-dire que délibérément, ils savent que leur production n'est pas pour servir à l'État ou au géographe ou à quelqu'un d'autre, mais ça s'inscrit dans un courant littéraire qui a explosé à partir du 9e siècle. On appelle le courant de l'adab. Adab, c'est un courant qui est qu'on peut rendre littéraire toute connaissance. Et donc, il y a des gens qui vont se spécialiser pour écrire des livres de vulgarisation scientifique, mais qui sont suffisamment agréables à lire. Il n'y a pas de théorème, il n'y a pas de formule, mais quelqu'un de cultivé, qui n'a pas les moyens de faire des études très spécialisées, il veut savoir qu'est-ce que c'est que l'algèbre, qu'est-ce que c'est que l'astronomie, etc., qu'est-ce que c'est que l'alchimie. Bien, il y a des livres, ça s'appelle les encyclopédies. Et ce sont des gens spécialistes qui les écrivent.
Oui, oui.
Ce n'est pas nécessairement les scientifiques eux-mêmes, comme le Khawarizmi du Xe siècle. Il y a aussi des livres qui racontent les grandes aventures des marins, mais qui sont en fait racontés de sorte qu'il n'y a pas que les informations sèches des géographes. C'est raconté, par exemple, en privilégiant tout ce qui est insolite, tout ce qui est curieux, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est extraordinaire, pour que la lecture en soit un plaisir. À tel point d'ailleurs que ça va être une déformation fâcheuse pour certains, qui privilégient beaucoup plus ça pour vendre leurs ouvrages, que de faire un journal sec, mais quand même qui informe. C'est ce qui va arriver à certains de nos personnages.
Ils embellissaient la vérité pour la rendre plus agréable à la lecture.
Absolument.
Et donc faire rêver un petit peu les personnes qui liraient ces livres.
Absolument.
Vous nous avez parlé tout à l'heure des diplomates en nous disant bon, qu'ils espionnaient, c'est un petit peu leur métier, pour le compte des intérêts de leur pays. Mais est-ce qu'on a retrouvé, par exemple, des écrits de diplomates qui auraient mis sur papier leurs mémoires et est-ce qu'elles nous sont parvenues ?
Alors, il n'y a pas beaucoup d'écrits. Par exemple, la diplomatie a commencé dès les Omeyyades. Mais on a des noms de diplomates voyageurs à partir des Abbassides. Il y a, pour le calife Al-Mansour, un diplomate qui s'appelle Ibn Hamza, qui est mort en 814. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé son livre. En Espagne musulmane, nous sommes au Xe siècle. L'Espagne musulmane, ce sont les Omeyyades, gouvernés par Abdelrahman III, le très grand calife qui a régné 50 ans. Il a eu un grand diplomate qui s'appelle Razal, qui a voyagé, etc., et qui a rapporté des informations. Et puis il y en a un, on a de la chance, il a écrit un livre, un tout petit livre. Ce monsieur est du 9e-10e siècle, il est d'Orient, il s'appelle Ibn Fadlan, il a vécu autour de 921. Il a été envoyé en mission diplomatique par le calife Al-Muqtadir. On sait que sa mission était d'aller contacter le roi des Slaves, Sakhalib, les Slaves, à cette époque-là, un peuple qui s'appelait les Bulgares. Mais en allant voir le chef de ces Bulgares, il a aussi rencontré, comme disent les Arabes, les Russes. Et donc il est allé dans la région de la Volga. C'est pas rien. Il a mis plus d'un an pour arriver. Il démarre le 21 juin 921. Donc vous voyez, nous avons la date. Ça veut dire que le monsieur, il a marqué soigneusement dans ses fiches, parce qu'il devait faire un rapport à son calife.
Et c'était le premier jour de l'été.
21 juin 921, et il dit que je suis revenu à Bagdad le 12 mai 922. Pourquoi ? Parce que le roi des Bulgares a pris contact avec Al-Muqtadir pour lui demander de bien vouloir l'aider, pour se protéger contre les Khazars, qui étaient un royaume de religion juive d'ailleurs, qui attaquaient les Bulgares. Et les Bulgares, pour être protégés, ont trouvé une solution absolument géniale, c'est d'être l'allié de la plus grande puissance du moment. Et pour être vraiment un bon allié de la plus grande puissance, eh bien on va devenir musulman.
Ah, ils se sont convertis.
Donc le chef s'est converti, mais il y a une grande tradition très ancienne, barbare, médiévale, etc., dans certaines régions. Lorsque le chef se convertit à l'islam, ses sujets doivent se convertir à l'islam. Ils suivent leur chef. Et donc, c'est comme ça que son peuple est devenu musulman. Et alors donc, il a dit au calife, est-ce que vous pouvez m'aider symboliquement construire une mosquée avec l'argent du califat ? D'abord, ça lui fera des économies. Et ensuite, me construire une forteresse pour me protéger contre les Khazars. Alors, le Mortadil a accepté. Pourquoi ? Pour des raisons géostratégiques. Il a vu que dans la région qui est au nord, l'empire musulman avait besoin d'être consolidé, d'être protégé. Donc, il fallait des états tampons. Donc, il disait, pour celui-là, je vais répondre. Et il envoie une délégation avec un ambassadeur, un plénipotentiaire, plus un militaire qui l'accompagnait, plus évidemment des espions. Eh bien, ils vont pendant un an voyager dans une caravane qui a 3000 chameaux et qui déplace entre 12 000 et 15 000 hommes. Ça, c'est les chiffres donnés par Ibn Fadlan. Il nous rapporte des informations très, très intéressantes sur ces peuples, le peuple bulgare et le peuple russe. Par exemple, il est très étonné de voir que les gens mangent des fruits qui s'appellent des érelles.
C'est ça, très bon.
C'est tout à fait nouveau. Et il voit que les gens, quand même, ils ne sont pas très bien convertis. Hein, vous savez, c'est des musulmans nouveaux. Alors, ils adorent beaucoup la sève du bouleau. Mais en fait, elle est enivrante. C'est du vin frais. Hein. Alors, il a essayé de les dissuader, mais de toute façon, ils avaient des habitudes. C'est lui le premier dans l'histoire de l'Empire musulman qui a décrit un rhinocéros. C'est grâce à lui qu'on sait que des rhinocéros étaient au nord. Alors qu'on pense toujours qu'ils sont en Afrique.
Eh ben oui, c'est étonnant.
Il décrit un rhinocéros d'une manière tellement précise que les spécialistes disent, il n'y a pas de problème, c'est un rhinocéros. C'est lui qui décrit quelque chose que les géographes soupçonnaient bien sûr, mais qui a été confirmé même culturellement, c'est qu'il y a des régions qui vont poser problème pour la pratique religieuse. C'est qu'il y a des régions où la nuit ne dure qu'une heure. Alors, les cinq moments des prières, comment les faire ? Est-ce qu'il faut faire à la fois le maghrib ou l'asr, le dhuhr ou l'asr ? Alors lui, c'est de leur donner des solutions. C'est une adaptation de l'islam à des situations climatiques tout à fait nouvelles. Parle des Russes, ils sont tellement grands, ils ont une couleur qui n'est pas la nôtre. Ils ressemblent à des palmiers et ils sont blonds et rougeaux. Oui. Il décrit aussi un enterrement. Il décrit les cadeaux qui sont offerts aux Turcs. Il décrit quelque chose qui est très amusant pour montrer que c'est vraiment un peuple qui vient juste d'être islamisé. Si je les raconte, c'est pas juste pour amuser l'auditoire. Hein. Je sais que c'est les embouteillages du vendredi, mais quand même. La première, c'est qu'un jour, il faisait chaud, il est allé se baigner dans le grand fleuve de la région, c'était la Volga. Hein. Il est terrifié. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit les hommes, tout nus, en train de se baigner. Des femmes, toutes nues, en train de se baigner. Et les hommes et les femmes se baignent en même temps. En tant que musulman, il est offusqué, il est horrifié. Alors, comme il est diplomate quand même, il attend que tout se passe. Lui, il se baigne pas, bien sûr. Et puis, il va voir le chef. Il dit, vous êtes des païens ou des musulmans ? Il dit, nous sommes des musulmans, quand même. Il n'y a que des musulmans ici. Vous savez que dans les traditions musulmanes, quand même, et même dans...
Voilà.
Ah bon ? Ah ça, on ne nous l'a pas encore enseigné. Mais il faut l'appliquer. Alors, il dit, je suis revenu quelques jours plus tard, mais ils n'ont jamais eu l'idée de l'appliquer. Hein, bon. Parce que, de toute façon, les usages populaires, c'est très difficile. Alors, la deuxième chose qui est très amusante, mais touchante, il arrive dans une famille fraîchement musulmane, qui ne parle pas l'arabe, qui ignore l'arabe, qui suivent l'imam pour faire la prière. Et il dit, vous êtes des musulmans ? Il dit, oui. Et alors, est-ce que vous avez eu l'idée de changer votre nom ? Vous avez le droit de garder votre nom, le nom païen. Ah, il dit, non, nous sommes de bons musulmans. Toute la famille, vous voyez, nous avons changé notre prénom. Ah, ça c'est bien. Alors, comment vous appelez, monsieur ? Ah, moi je m'appelle Mohamed. Ah, très bien. Et votre fils ? Ah, il s'appelle Mohamed. Ah. Et votre neveu ? Ben, il s'appelle Mohamed. Et votre femme ? Ben, elle s'appelle Mohamed, évidemment. Il ne connaissait qu'un prénom de tout l'islam. Toute la famille s'appelait Mohamed. Alors, c'est un bel exemple de musulmans fraîchement convertis. Et ça montrait la sincérité des nouveaux convertis et leur amour pour cette nouvelle religion.
Et leur naïveté.
Et leur naïveté aussi.
D'autres témoignages de ces ambassadeurs voyageurs qui peuvent rapporter des histoires aussi croustillantes.
Alors, le deuxième qui a été réellement un diplomate, mais je préfère en parler après parce que je vais suivre la chronologie.
D'accord.
Il n'arrive qu'au XVIe siècle.
Alors, est-ce que par contre, il y a eu des savants qui ont voyagé ? Est-ce que leur voyage était à but strictement scientifique ou est-ce qu'ils avaient d'autres buts de recherche, par exemple ?
Quand on dit à but scientifique, c'est très large, hein. Parce que la science pour les musulmans, c'est la science de la religion, l'astronomie, les mathématiques, etc. Donc quelqu'un vous dit, j'ai fait une mission scientifique, ça peut vouloir dire qu'il est allé étudier le fiqh à Bagdad, mais ou bien la science, l'astronomie, aux côtés d'un grand savant de Bagdad ou de Damas, ou bien d'ailleurs de Kairouan ou de Tunis. Alors, parmi ceux qui ont laissé vraiment des livres qui s'appellent des rihla. Rihla, ça veut dire déplacement, voyage.
Oui.
Alors là, il y en a eu des milliers. Il y a Ibn Sa'id al-Maghribi, qui est mort en 1280. Il y a Al-Abdari, son voyage s'appelle Rihla Maghribiya. Il y a Tijani, qui a vécu après 1310. Ça, c'est pour les Maghrébins. Et puis, il y a des scientifiques qui, eux, n'ont pas écrit de livres sur leur mission. Mais à travers leurs écrits scientifiques, quand on les analyse, on voit bien qu'à un moment donné, ils sont arrêtés, ils étaient jeunes. Ils avaient des diplômes. Par exemple, Al-Jayani, 11e siècle, bardé de diplômes. Il apprend qu'un grand mathématicien astronome est au Caire, il s'appelle Ibn al-Haytham, hein, nous sommes avant 1039, eh bien, il va au Caire, il s'installe et il devient un étudiant. Il assiste aux cours, il prend des livres et puis il revient chez lui et il écrit de très beaux livres d'astronomie et de mathématiques. Un deuxième avant lui au 10e siècle, il s'appelle Ibn Abdoun. Ibn Abdoun était juste un petit professeur de mathématiques, même un instituteur dans le Kutub, mais il enseignait quand même aux enfants des princes. Hein. À un moment donné, il a eu des problèmes, il quitte l'Andalus alors qu'il lui manquait rien. Hein. C'était un précepteur des princes. Et il va au Caire. Il laisse tomber toute sa formation de mathématiques. Il nous a même laissé un livre de mathématiques que j'ai édité il y a 3 ans. Je suis le premier à l'avoir édité, qui s'appelle Risala fi Taksir, épître sur la mesure. Il va au Caire, il fait de nouvelles études. Vous vous rendez compte? Parce que l'Empire étant immense, il va vers un foyer scientifique, et puis il trouve de grands professeurs. Il a décidé de faire de la médecine. Il est tellement bon en médecine qu'il devient médecin et il devient directeur d'un des grands hôpitaux du Caire. Et après, il revient en Espagne. Il n'a pas laissé de messages, de souvenirs, mais on connaît sa vie comme ça. Donc ce sont vraiment des rihlas scientifiques. Et puis il y a évidemment ceux qui sont des scientifiques, mais qui font des missions, mais contre leur gré. Et
là, Contre leur gré.
Nous sommes au 11e siècle. Un grand savant qui s'appelle Al-Biruni, en Asie centrale. Déjà célèbre de son vivant, à partir de 30 ans, il est devenu célèbre. Il voyageait peu, sauf dans sa région. À tel point que quand un jour, il reçoit une lettre d'Abu Luwafa, un grand mathématicien de Bagdad, eh bien, ils décident tous les deux de faire une expérience à des milliers de kilomètres de distance, sans jamais rencontrer. Une expérience sur les éclipses.
On l'a évoqué dans l'astronomie.
Alors donc, manifestement, il ne voyageait pas beaucoup ce monsieur, sinon il serait allé à Bagdad. Eh bien, à un moment donné, il y a un prince qui s'appelle Mahmoud al-Ghaznawi. Il fait des conquêtes en Asie centrale, il devient très puissant et il veut faire comme les califes, avoir des savants autour de soi. Alors il dit, quels sont les savants de ma région qui peuvent honorer ma cour? On lui dit, Ibn Sina. Il était vivant à l'époque. Il dit, Ibn Sina, allez me le chercher. Ils font tout. Ibn Sina ne veut pas aller dans la cour. Et il se déguise et il n'arrive pas à l'attraper. Il arrive à peindre le portrait d'Ibn Sina par des peintres, avec des informations qu'il a eues, un portrait robot.
Une sorte de wanted.
Oui, un wanted. Les services secrets sont allés le chercher, et ils l'ont pas attrapé malgré ça. Par contre, Al-Biruni l'a attrapé, le pauvre.
Le pauvre,
c'est
oui.
C'est l'histoire vraie. Hein. Ils ont à peu près le même âge. L'un est mort en 1037 et l'autre en 1041. Biruni, on l'attrape, et contre son gré, il devient un grand savant de la cour des Ghaznavides. Bien sûr, il avait beaucoup d'argent, il a travaillé. Et puis un jour, le prince a décidé d'aller conquérir l'Inde. Eh bien, Al-Biruni est devenu un voyageur malgré lui. Toutes les campagnes militaires faites par le prince, il les a faites, lui, en tant qu'observateur. Donc, il a été un grand reporter. Vous savez, à la fin, qu'est-ce qu'il a rapporté? Il a rapporté de cette mission qui a duré plusieurs années, contre son gré, l'un des plus beaux livres sur l'Inde, sa sociologie, sa science, sa culture. Et il s'appelle Kitab Tahqiq Malil Hind, enquête sur ce qu'il y a en Inde.
Alors, Al-Biruni, le grand géographe qui nous a rapporté des récits merveilleux, avec ou contre son gré, à la limite qu'importe. Hein. Alors, le fameux Ibn Jubayr, lui, est-ce qu'on peut le mettre dans la catégorie des savants voyageurs et pourquoi son livre a eu tellement de succès à son époque et après lui?
Alors, lui, il est du XIIe siècle. Il est né en 1145, en Espagne musulmane, Andalus. Il est mort en 1217. Donc, il est en plein dans le XIIe et surtout en plein dans les croisades. Et donc, comme il a vécu en Andalus, il va voyager en Méditerranée pour aller vers les lieux saints. Alors lui, ses missions, c'est le pèlerinage. Il est allé plusieurs fois, hein, peut-être 3 fois je crois, à la Mecque. Puis ensuite, après le pèlerinage, comme il est curieux, il a visité la région. Il n'est pas allé très loin. La région, c'est-à-dire la Syrie, la Palestine, la Sicile, parce qu'à son époque, la Méditerranée n'est plus contrôlée par les musulmans, je l'ai déjà dit, mais il donne d'ailleurs des confirmations lui aussi. Tous les bateaux étaient chrétiens. Et donc les bateaux avaient leur itinéraire qui n'était pas celui des musulmans. Alors ils cabotent vers le nord. Et donc du coup, ils passent par la Sicile. Donc là, nous avons des descriptions d'un voyageur musulman du royaume de Sicile. On a une description du royaume de Jérusalem qui était tenu par les croisés. Donc il y a une enclave qui était chrétienne, conquise par les croisades, et à côté, évidemment, entourée par tout le territoire musulman et des pouvoirs musulmans. Et puis, c'est un monsieur qui essaie d'être très objectif, même s'il est anti-chrétien, parce que quand même, nous sommes dans les croisades. En plus, il est malikite, il est sunnite, il est sévère, etc. Alors, ce monsieur, c'est le premier qui a réussi vraiment, alors qu'il y a eu beaucoup de voyageurs avant lui, réussi à écrire un livre qui est à la fois un livre d'information, un livre objectif, et surtout un livre qui est délicieux à lire, qui est très plaisant à lire, qui contient des anecdotes, de l'humour, parfois du suspense. Et donc, c'est à la fois des informations, mais des informations travaillées. En plus, il avait un très beau style. Et dans ce sens, il est devenu une sorte de modèle de ce qu'il faut écrire quand on est grand reporter. Voilà pourquoi il est devenu célèbre. Et après lui, tous ceux qui ont fait des ouvrages sous forme de grands reportages n'ont jamais atteint ce niveau de style, ce niveau d'équilibre à la fois, de l'information stricte comme un géographe, de choses insolites, mais pas de merveilleux. C'est vraiment le modèle du grand reporter. Et je pense que s'il y a une association de journalistes aujourd'hui au Maghreb, il devrait avoir comme parrain Ibn Jubayr.
Oui.
Parce qu'il représente ce que devrait être le modèle du grand reporter.
Bon, je pense que tous les journalistes qui vous écoutent ce soir vont en prendre de la graine. Alors, il y en a un autre célèbre voyageur, Ibn Battuta. Celui-là aussi, il a beaucoup voyagé, donc on a beaucoup écrit sur lui. Mais on l'a accusé d'enjoliver ses souvenirs, donc d'embellir un petit peu, de romancer un petit peu la réalité. Alors, c'est vrai, c'est faux. La réalité, elle est où ?
Entre les deux. Pourquoi ? Tout simplement parce que le livre existe. Je signale d'ailleurs que le livre d'Ibn Jubayr est édité en arabe dans beaucoup de collections. On vient de publier une traduction française qui est très bonne, il y a quelques années, dans les éditions Gallimard. Et d'ailleurs, dans cette édition, il y a Ibn Fadlan, le texte d'Ibn Fadlan, le texte d'Ibn Jubayr et le texte d'Ibn Battuta, traduit par un collègue chercheur à Paris. Ibn Battuta, en fait, c'est parce que il est venu après toute cette vieille tradition de rihla, d'écriture, de grands reporters. Comme il est venu parmi les derniers, avant de commencer à voyager, eh bien, il a lu ses aînés. Quoi? Il s'est documenté avant de partir. Il a lu ses guides de routard.
Oui, avant l'heure, oui.
Voilà. D'ailleurs, il est parti bardé de diplômes. Toujours est-il qu'il quitte Tanger le 14 juin 1325. Décidément, ils partent tous au début de l'été.
Au mois de juin, oui. Oui, ben oui, pour avoir le temps, les journées sont plus longues.
Et surtout parce qu'ils partent au moment où les bateaux sont moins soumis aux dangers de la mer. Ils ne partent pas en hiver. Ibn Jubayr raconte une tempête. Ibn Battuta raconte une tempête où il est sorti tout nu comme un ver de terre. Ce sont des vraies aventures. Et alors Ibn Battuta, lui, c'est tout simplement parce qu'il vient après, 14e siècle, qu'il a beaucoup lu, il a beaucoup voyagé, il est resté 25 ans loin de sa ville natale, donc il a ramassé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, et pour son malheur, il est passé dans des villes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, parfois à des années d'intervalle, et donc les informations qu'il a récoltées pendant le premier voyage, ça se mélange avec les informations qu'il a récoltées au deuxième voyage, au troisième voyage, et donc la mémoire humaine, elle flanche de temps en temps. Il prend des fiches. Et puis parfois même volontairement, il a tendance, puisqu'il a traversé une ville, il a vécu dans une ville quatre fois. Et il veut décrire la madrasa et la mosquée, qui n'ont pas bougé. Pourquoi voulez-vous qu'il raconte quatre fois la description de la madrasa et de la mosquée ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une seule fiche pour décrire tout ce qui est madrasa, etc. Mais parfois il oublie qu'en fait, une madrasa, il ne l'a pas vue le premier voyage. Il l'a vue qu'au troisième voyage, il l'a confondu. Mais ça, c'est les historiens qui peuvent le remarquer. Mais en dehors de ça, il est quand même sérieux. Il avait des fiches, il rapportait des informations qui sont tellement capitales, en particulier sur l'Indonésie. Il raconte des choses sur les îles Maldives.
Il est allé jusque là-bas.
Jusqu'à Ceylan, jusqu'en Chine. Il a été ministre de la Justice aux îles Maldives. Et puis à un moment donné, il arrive à Damas. Il attend la caravane. Il dit, qu'est-ce que je vais faire de mon temps ? Lui, il n'était pas commerçant, parce qu'il y avait des voyageurs commerçants. Il ne faisait pas du business. Il dit, je vais étudier. Il prend ses diplômes, il va voir les cours. Qu'est-ce qu'il y a comme cours aujourd'hui à Damas ou demain et après-demain ? Il fait son planning pour compléter ses connaissances. Et il devient grand juriste en assistant à des cours. Mais évidemment, comme il est malin, assister à des cours, c'est une chose. Mais faire comprendre aux gens qu'on est vraiment d'un niveau, il faut des diplômes. Ça s'appelle des ijazat. Mais les diplômes, c'est là où ça coince un peu. Un jour, il le raconte lui-même. En deux semaines, il a pu obtenir une dizaine de diplômes de professeurs différents. Mais parfois, quand même, il est sérieux. Un professeur lui a dit, moi, je veux bien te donner le diplôme. Mais j'ai un cycle de cours de 12 cours. Il faut que tu assistes aux 12 cours. Et il l'a dit, hein, j'ai assisté aux 12 cours. Et alors là, bardé de diplômes, il arrive aux îles Maldives. Et il devient ministre de la Justice. Il dit, pendant tous mes voyages, pendant 25 ans, je me suis marié au moins 10 fois.
En plus.
Et oui, parce que la religion musulmane permet.
4
Non, ça c'est les malékites. Mais quand on voyage ailleurs, dans les espaces chiites, etc., il y a ce qu'on appelle le zawaj al-muta.
Oui.
Il y a un autre type de zawaj. Donc il joue sur les madhahib. Des connaisseurs, très connaisseurs. Ça confirme d'ailleurs qu'il s'est marié 10 fois. Parce que lui-même, un jour, à un moment donné, il dit « Et je me suis souvenu que j'ai laissé des enfants. » Alors, il retrouve ses enfants du mariage numéro 6. Le résumé, c'est quoi ? C'est le reflet vraiment d'un nouveau profil de citoyen qui n'existait pas avant. Un citoyen du monde, comme on dit aujourd'hui, mais du monde musulman. Il est de Tanger, il a sa culture locale, mais il a une culture universelle, la culture scientifique, la culture juridique de l'islam.
Alors, il en reste un. Le grand parmi les grands, en principe, c'est Ibn Khaldoun. Dans quelle catégorie on doit le mettre, lui ? Scientifique, diplomate ?
Ibn Khaldoun, c'est un grand historien.
Mais il a voyagé.
Oui, mais les gens pensent que, bon, il a voyagé, il a été ministre. D'abord, il est né à Tunis. Très vite, à l'âge de 19 ans, il est devenu un très haut fonctionnaire dans des ministères, comme on dirait aujourd'hui, chambellan ou même premier ministre. Il a voyagé à Béjaïa, parce qu'il a eu des fonctions. Mais entre-temps, il a roulé sa bosse. Il a voyagé au Maghreb extrême, à Fès. À Grenade, il est devenu ministre. Ensuite, il est revenu. Il a intrigué. Donc, il a passé son temps à se déplacer, en Andalous et au Maghreb. Et, à un moment donné, à 40 ans, il a été dégoûté du problème de son expérience politique. Et puis, il a dit, je laisse tomber la politique et je choisis la science. En fait, il l'a dit souvent dans sa vie. Puis, à chaque fois, il continue à faire de la politique. Et, mais lui, c'est un grand intellectuel d'une grande famille d'origine andalouse. Et effectivement, à 40 ans, c'est émouvant quand même, d'ailleurs, comme décision. À 40 ans, il a dit, maintenant, c'est vraiment fini. Et nous, quand on lit d'ailleurs son témoignage, on dit « Ah, cette fois-ci encore pour la cinquième fois, il dit « Je vais arrêter la politique, je vais faire de la science. On va le retrouver encore ministre. » Eh bien non. Et là, il fait le grand voyage, le grand saut. Il quitte Tunis et il va en bateau jusqu'au Caire. Il ne revient jamais à son pays natal. À un moment donné, il a eu la nostalgie de sa famille. Il est devenu grand juge, hein, style ministre de la justice au Caire. Il a été reçu par Tamerlan comme ambassadeur plénipotentiaire envoyé par le roi d'Égypte. Et puis, il a discuté avec Tamerlan. Tamerlan lui a demandé un rapport sur la situation du Maghreb, parce que Tamerlan voulait conquérir le Maghreb. Un jour, il a eu la nostalgie de son pays. Et là, Ibn Khaldoun, il demande, qu'il avait beaucoup de relations, que sa famille soit envoyée au Caire, en bateau. Toute sa famille, ses enfants, sa femme, etc. Ils arrivent juste à quelques kilomètres d'Alexandrie, une tempête, le bateau coule, toute sa famille disparaît. Et il le dit en une phrase. Et cette phrase, dans sa concision, elle est touchante.
Les plus grandes douleurs sont muettes.
Dans quelles circonstances il a écrit tout ça? Eh bien, figurez-vous qu'à la fin de sa vie, il a écrit une rihla lui aussi. Et ça s'appelle Rihlat ibn Khaldoun gharban wa sharqan. C'est-à-dire les voyages d'Ibn Khaldoun en Orient et en Occident. Et en fait, il écrit son autobiographie. Donc la rihla maintenant se confond. Ce n'est plus une rihla pour aller voir les pays, pour donner des informations, etc. Pour raconter ses pérégrinations comme Ibn Battuta. Mais c'est sa biographie. Voilà ce que j'ai été, voilà ce que j'ai fait, mes échecs, mes réussites et mes drames personnels.
Et donc l'histoire de l'époque dans laquelle il a vécu.
Bien sûr, il ne dit pas tout. Mais j'invite les auditeurs à lire ce livre. C'est le 14e volume de son grand ouvrage Kitab al-Ibar. Le premier volume, c'est la Muqaddima. Tous les autres volumes jusqu'au 13, c'est l'histoire des Arabes, des Berbères et des Ajam, comme on dit, c'est-à-dire les Persans. Et puis le dernier, c'est sa biographie. Et c'est intéressant, il la met en dernier, pas au début, pour clore un peu son œuvre.
Il a eu cette humilité aussi.
Et ça, c'est un bel exemple. Et vous me donnez l'occasion pour dire aux jeunes, lisez Ibn Khaldoun. Lisez Ibn Khaldoun pour découvrir d'abord un personnage fabuleux, un homme d'une grande humanité, même s'il le dit de manière discrète, un grand savant, et puis l'une des plus grandes pensées lumineuses de l'humanité, mais produite par le Maghreb.
Alors, dernière question pour ce beau voyage ce soir. Est-ce qu'il y a eu d'autres voyageurs après le XIVe siècle ? Est-ce
oui,
qu'on
oui,
en connaît
oui,
quelques-uns ?
Oui, oui, il y en a eu, mais par manque de temps, je vais vous parler juste de l'un d'eux qui a eu un destin absolument...
Étonnant aussi ?
Absolument étonnant. Il s'appelle Hassan el-Wazzan. On l'appelle aussi Léon l'Africain. Alors ce monsieur, il est né à Grenade, à la fin du XIVe siècle.
Oui.
Quelques années avant la chute de Grenade, vers 1488. Il a quand même une bonne formation de lettré. Il a un oncle qui est déjà diplomate. Et à 20 ans, il va au Maghreb extrême, c'est-à-dire au Maroc aujourd'hui, à Fès. Et Fès était la capitale, prestigieuse, il y a des savants, etc. Au lieu de choisir la science, il choisit la diplomatie à l'âge de 20 ans. Parce que, pistonné par son oncle... Et son premier voyage n'est pas en Orient, parce que l'Orient, c'est le prestige. Voilà quelque chose aussi d'original. Il va sur les traces d'Ibn Battuta et il va vers le Mali, vers Tombouctou. Sa première mission était une mission très difficile. Et donc, il raconte tout ça. Et ensuite, eh bien, il revient, il voit comme ambassadeur, comme diplomate, etc., en Égypte, dans les grandes villes du Maghreb. Et un jour, c'est au retour d'une grande mission d'Égypte qu'il est arrêté par des pirates siciliens. Il est emmené en captivité. Et c'est un ordre religieux qui finançait le bateau. Il l'amène, il l'interroge. Il se rend compte que c'est un monsieur qui était un puits de science, qui avait une culture extraordinaire. Ils étaient impressionnés. Ils ont dit, ce monsieur, ça ne peut être qu'un cadeau pour le pape. Et il l'envoie comme cadeau, parce que c'était un esclave. Mmh. Il arrive au pape Léon, je ne sais pas, 6 ou 5, ou je ne me souviens pas. Et ce pape très éclairé le prend sous sa coupe comme si c'était son filleul. Il aurait pu être vendu n'importe où. Et puis ensuite, comme un conseiller très proche, il apprend le latin, il apprend l'italien, et puis il commence donc à écrire ses mémoires. Sans lui, on n'aurait pas pu les connaître. En particulier, il raconte des informations sur l'Espagne musulmane, finissante. Il donne des informations très importantes sur les hôpitaux au Maghreb, en particulier au Maghreb extrême, sur évidemment ses voyages au Mali, etc. Bref, j'invite le lecteur à absolument lire d'abord le roman d'Abid Maalouf, parce qu'il l'a fait connaître.
Léon l'Africain, merveilleux livre.
Et puis surtout, ensuite, aller lire directement l'autobiographie de Léon l'Africain, parce qu'elle existe. Il y a même une traduction en arabe, parce qu'elle n'a pas écrit en arabe. Mmh. Il y a une traduction en arabe, que j'ai d'ailleurs chez moi. Il suffit qu'il soit curieux, parce que quand même, il faut arrêter ce processus absolument tragique, que lorsqu'on va dans une librairie en Algérie, pour chercher un des titres que j'ai évoqués depuis des mois, mais on ne les trouve pas, alors qu'on les trouve à Rabat, on les trouve à Tunis, on les trouve à Paris, et on ne les trouve pas à Alger. C'est un scandale, et vous voyez, pour la première fois, je me mets en colère.
Je ne dirai rien, parce que je partage aussi, je dirai, votre courroux. Voilà, donc, le voyage se termine là, sur la bonne grosse colère du professeur Djebab, qui veut que les auditeurs puissent lire toutes les biographies, les livres de tous ces savants formidables, généreux, géniaux, etc., qui nous ont accompagnés donc depuis décembre 2007. Le voyage n'est pas terminé, puisqu'on se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre étape dans cette saga sur l'âge d'or des sciences arabes. Merci professeur Djebab.
Je vous remercie.
Et puis pour les auditeurs, eh bien, rendez-vous vendredi dès 18h15.
C'était l'âge d'or des sciences arabes, raconté par le professeur Ahmed Djebab. Présentation Dalila Smaïl. Collaboration Samira Chouadria. Réalisation Hafid Fouhar.
L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.